Chapitre 1. Notre dragon ne mange pas les filles qu'il emporte, malgré les histoires que l'on raconte à son sujet en dehors de notre vallée. On les entend parfois quand des voyageurs passent par chez nous. Ils en parlent comme si nous sacrifions des êtres humains à un véritable dragon. Naturellement, rien de cela n'est vrai. Il a beau être magicien et immortel, il n'en reste pas moins homme. Et nos pères se ligueraient pour l'éliminer s'il venait dévorer l'une d'entre nous tous les 10 ans. Il nous protège contre le bois, et nous lui en sommes reconnaissants, mais pas à ce point. Il ne les mange pas vraiment, c'est juste que ça donne cette impression. Il emmène une fille dans sa tour et la libère 10 ans plus tard. Mais elle n'est alors plus la même. Ses vêtements sont trop raffinés. Elle s'exprime telle une dame de la cour, et elle a vécu seule avec un homme pendant une décennie. Alors, bien sûr qu'elle est perdue, même si les revenantes affirment toutes qu'il n'a jamais posé la main sur elle. Que pourrait-elle dire d'autre? Et ce n'est pas le pire. Après tout, quand il les relâche, le dragon leur laisse pour dot un sac plein d'argent, si bien que n'importe qui serait prêt à les épouser, perdus ou non. Sauf qu'elles ne veulent plus se marier. Elles ne veulent pas rester du tout. Elles oublient comment vivre ici, m'avait dit un jour mon père, à ma profonde surprise. Je cheminais à son côté sur le siège de la charrette vide alors que nous venions d'effectuer notre livraison hebdomadaire de bois de chauffage. Nous habitions Advernic, qui n'était ni le plus vaste village de la vallée, ni le plus petit, ni même celui qui se trouvait le plus près de la forêt. Nous en étions distants d'une 10aine de kilomètres. La route nous faisait en revanche franchir une grande colline. Quand il faisait beau, on distinguait, depuis la crête, la rivière qui s'écoulait vers la bande gris-pâle de terre calcinée et la muraille noire des arbres au-delà. La tour du dragon était située loin dans l'autre direction, morceau de craie blanche fiché à la base des montagnes occidentales. J'étais encore toute petite, sans doute pas plus de 5 ans, mais je savais déjà qu'il ne fallait pas parler du dragon ni des filles qui l'emmenaient. Cela m'avait donc frappée d'entendre mon père enfreindre cette règle. « Elles se souviennent qu'il faut avoir peur », avait-il ajouté. C'était tout. Puis, d'un claquement de langue, il avait fait repartir les chevaux vers les arbres au bas de la colline. Je n'y comprenais pas grand-chose. Nous avions tous peur du bois. Mais notre vallée était notre chez-nous. Comment pouvait-on quitter son chez-soi? Pourtant, les filles qui revenaient ne restaient jamais. Le dragon les laissait sortir de la tour, puis elles retournaient quelque temps dans leur famille, une semaine, parfois un mois, jamais beaucoup plus. Ensuite, elles prenaient l'argent de leur dot et repartaient. La plupart du temps, elles se rendaient à Kralia pour s'inscrire à l'université. Souvent, elles épousaient un citadin, ou devenaient enseignantes ou commerçantes, même si des rumeurs couraient sur le comte de Jadwiga Bach, qui avait été enlevée 60 ans plus tôt avant de devenir courtisane et la maîtresse d'un baron et d'un duc. Mais à l'époque de ma naissance, elle n'était qu'une vieille femme riche qui envoyait de merveilleux cadeaux à tous ses petits-neveux et nièces sans jamais leur rendre visite. Ça n'a donc rien à voir avec le fait de livrer sa fille en pitance, mais ça n'est pas très gai non plus. Il n'y a pas suffisamment de villages dans la vallée pour que les risques d'être choisis soient presque inexistants quand on a vu le jour à la mauvaise période. Il ne prend qu'une fille de 17 ans, née entre un mois d'octobre et le suivant. Nous étions 11 à être concernés dans mon année. Les probabilités étaient donc plus faibles que lors d'un lancer de dés, mais quand même. Tout le monde dit qu'on aime une fille du dragon différemment des autres à mesure qu'elle grandit. On ne peut pas s'en empêcher, sachant qu'on a de bonnes chances de la perdre. Mais ça ne s'est pas passé comme ça avec mes parents. Dès que j'ai été en âge de comprendre que je pourrais être enlevée, nous savions déjà tout ce qui l'emmènerait Kasia. Seuls les gens de passage, qui l'ignoraient, complimentait ses parents sur sa beauté, son intelligence ou sa gentillesse. Le dragon ne choisissait pas toujours la plus jolie, mais celle qui ressortait le plus du lot d'une manière ou d'une autre. Si une fille était de très loin la plus belle, la plus brillante, la meilleure danseuse, la plus gentille ou autre, il trouvait toujours le moyen de la sélectionner, même s'il échangeait à peine quelques mots avec les concurrentes avant de se décider. Et Kasia réunissait toutes ses qualités. Elle était dotée d'une épaisse chevelure blonde rassemblée en une tresse qui lui tombait jusqu'à la taille, de grands yeux marrons chaleureux et d'un rire cristallin qui donnait envie de chanter par-dessus. C'était toujours elle qui inventait les meilleurs jeux et imaginait les meilleures histoires ou chorégraphies. Elle préparait de véritables festins. Et, lorsqu'elle filait la laine des moutons de son père, les fibres ressortaient toujours du rouet parfaitement lisses, sans le moindre nœud. Je sais que je la décris comme un personnage de conte, mais c'est tout le contraire. Quand ma mère me racontait l'histoire de la princesse au fuseau, de la courageuse gardeuse d'oie ou de la jeune fille de la rivière, je les imaginais toutes un peu comme Kasia. Voilà l'image que j'avais d'elle. Et comme je n'étais pas assez mûre pour être sage, je l'aimais plus, et non moins, parce que je savais qu'elle me serait bientôt enlevée. Elle disait que cela ne la dérangeait pas, car elle était aussi intrépide. Sa mère, Venza, y avait veillé. Je me rappelle l'avoir un jour entendu dire à ma mère « Elle devra se montrer courageuse », tout en poussant Kasia à grimper à un arbre au pied duquel elle hésitait. Maman l'avait alors prise dans ses bras, des larmes plein les yeux. Nous n'habitions qu'à 3 maisons l'une de l'autre, et je n'avais pas de sœur, seulement 3 frères bien plus âgés que moi. Kasia était ma meilleure amie. Nous jouions ensemble depuis toute petite. D'abord dans les cuisines de nos mères, essayant de ne pas trop traîner dans leurs jambes, puis dans les rues devant chez nous, jusqu'à ce que nous ayons l'âge d'aller courir comme des folles dans la forêt. Je ne voulais jamais rester à l'intérieur, alors que nous pouvions gambader sous les branches main dans la main. J'imaginais les arbres ployant leurs bras pour nous abriter. Je ne savais pas comment je le supporterais, quand le dragon l'emmènerait. Mes parents ne se seraient pas fait trop de soucis pour moi, même s'il n'y avait pas eu Kasia. À 17 ans, je n'étais encore qu'une gamine trop maigre aux grands pieds et aux cheveux châtains sales tout emmêlés. Mon seul talent, si l'on pouvait dire, était ma faculté à déchirer, tacher ou perdre en quelques heures tout ce qu'on me mettait sur le dos. Ma mère en était si désespérée que, dès mes 12 ans, elle m'affublait des vieux habits de mes frères aînés, sauf pour les jours de fête, quand j'étais obligée de me changer 20 minutes avant de quitter la maison, puis de rester assise sur le banc devant notre porte jusqu'à notre départ pour l'église. Et encore, rien ne garantissait que j'arriverais au pré-communal sans me prendre dans une branche ou me couvrir de boue.
« Ma pauvre Agnieszka, tu vas devoir épouser un tailleur !»
s'esclaffait mon père quand il rentrait le soir de la forêt et me voyait me précipiter vers lui, le visage crasseux, les vêtements troués et sans fichu sur la tête. Il me soulevait malgré tout dans ses bras pour m'embrasser. Ma mère ne soupirait qu'à peine. Quel parent serait réellement désolé que sa fille du dragon ait quelques défauts? Le dernier été avant la sélection fut long, chaud et plein de larmes. Kasia ne pleura pas. Moi, si. Nous lambinions jusque tard dans la forêt, tentant de prolonger aussi longtemps que possible chacune de ces journées dorées. Puis, je rentrais chez moi, épuisée et affamée, et j'allais directement me coucher dans le noir. Ma mère venait alors me caresser la tête, fredonnant doucement jusqu'à ce que je m'endorme, assommée par les larmes. Elle laissait près de mon lit une assiette pleine de nourriture, au cas où je me réveillerais au milieu de la nuit avec la faim au ventre. Elle n'essayait jamais de me réconforter de quelque autre manière. Comment l'aurait-elle pu? Nous savions toutes deux que, même si elle adorait Kasia et sa mère Venza, elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver un immense soulagement. Pas ma fille. Pas mon unique fille. Et naturellement, je n'aurais pas aimé qu'elle ressente autre chose. Kasia et moi restâmes seulement toutes les deux presque tout l'été. C'était d'ailleurs le cas depuis longtemps. Quand nous étions petites, nous courions avec les autres enfants du village. Plus tard, cependant, alors que mon amie devenait de plus en plus jolie, sa mère lui avait dit « Il vaudrait mieux pour toi, comme pour eux, que tu ne fréquentes pas trop les copains de ton âge. » Je m'étais toutefois accrochée à elle. Et ma mère aimait suffisamment Kasia et Venza pour ne pas essayer de me forcer à l'oublier. Même si elle savait que, sur le long terme, j'en souffrirais davantage. Le dernier jour, je nous dégotai une clairière dans la forêt où les arbres étaient encore garnis. Leurs feuilles dorées ou rouges flammes bruissaient au-dessus de nous, tandis que des châtaignes bien mûres crissaient sous nos pieds. Nous allumâmes un petit feu de bois pour en faire griller quelques-unes. Nous étions à la veille du 1er jour d'octobre et du grand banquet organisé pour honorer notre Seigneur et Protecteur. Demain, le dragon viendrait.